Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la gestion du match par le préparateur physique, voir un peu tous les aspects, les tâches durant les différentes étapes de match. Voici quelques définitions sur la fonctionnalité et la particularité du métier de préparateur physique. L'idée principale qu'il faut retenir, c'est qu'on a affaire à une personne qui est là pour préparer des athlètes, au sens large du terme, avec tous les aspects qu'on va pouvoir voir aux différentes étapes de la vidéo. Ce qui est important de noter, c'est que la présence du préparateur physique est importante. Historiquement, l'entraîneur, dans un staff quelconque, que ce soit au football ou dans d'autres sports, était là pour gérer l'ensemble de la partie des athlètes. Maintenant, depuis quelques années, on a créé des formations spécifiques pour venir justement se mettre de façon plus précise au service des athlètes. Donc c'est là que le métier de préparateur physique est né, avec tout ce que ça inclut. Donc c'est toujours dans l'idée d'améliorer constamment les performances, aussi bien sur le plan technico-tactique que sur le plan athlétique, que des métiers spécifiques liés au football se sont créés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que actuellement, il y a beaucoup plus de profils de préparateurs physiques que l'on croit. On va avoir des personnes, des techniciens du football qui ont été reconvertis, donc des entraîneurs à la base et qui se sont orientés vers la partie football. On a des entraîneurs spécifiques, donc qui étaient par exemple des gens qui étaient issus de l'athlétisme, des gens qui étaient issus d'autres sports qui sont venus justement apporter une nouvelle connaissance au métier de préparateur physique dans le football. On avait des chercheurs également, donc des personnes issues du monde scientifique, avec une approche vraiment très scientifique de la partie terrain, donc qui sont aussi venus se greffer dans les staffs. Et aussi, la particularité du football, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont devenus des préparateurs physiques. Donc avec, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment la connaissance approfondie de l'activité. Il est intéressant de noter que le préparateur physique actuellement, donc depuis les années 2000, est considéré comme un entraîneur à part entière. On va le retrouver au même stade que l'entraîneur adjoint, que l'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but. Donc c'est vraiment à la base un entraîneur, c'est-à-dire c'est un homme de terrain et qui est capable d'amener des notions scientifiques sur la partie athlétique notamment. Mais à la base, c'est des hommes de terrain, des hommes qui ont la connaissance du football. C'est ce qui est de plus en plus présent dans les staffs, c'est que les entraîneurs demandent que on est des entraîneurs préparateurs physiques. Pourquoi le terme entraîneur? On l'a expliqué tout à l'heure, parce qu'il faut vraiment cette connaissance technico-tactique. Il est intéressant de noter que, justement, donc on parlait un peu des années 2000 avec la spécificité du préparateur physique. Si on se replonge sur quelques années en arrière, le préparateur physique, dans les années 1950, dans les coins-là, c'était vraiment, on associait ce métier-là à la notion de rigoureux, de limite militaire. Donc c'était vraiment lié à un encadrement très strict au niveau des joueurs et des athlètes. Donc là, on était vraiment sur les coups de 1950-1940. Après, plus on a évolué, plus les gens se sont formés, et on a eu des profils qui étaient du professorat de sport. Donc à la base, des profs de sport qui se sont intéressés un petit peu à l'entraînement et à la préparation athlétique. Et le terme de préparateur athlétique est vraiment né sur les années, on va dire, 80. On a vraiment eu un métier spécifique qui s'est créé, où justement on est venu apporter ses connaissances, notamment de part de l'athlétisme. Et puis en arrivant dans les années 90, donc là on a toutes les formations STAPS qui sont créées, les différents profils avec les DUG, etc. Et justement là on est venu apporter encore une spécificité au métier avec les formations beaucoup plus scientifiques, avec des notions d'anatomie, des notions médicales. Donc c'est là que le métier vraiment a commencé à devenir le plus important possible et justement le plus scientifique, on va dire, possible. Et là maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vers les années 2000, on est arrivé sur des profils vraiment d'entraîneurs préparateurs physiques. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment des hommes de terrain qui ont la connaissance scientifique, mais qui sont capables d'animer des séances sur le plan pédagogique, de prendre un jeu, une conservation, des taureaux, des choses comme ça, mais être à la base un entraîneur. Parce que de plus en plus de clubs ont un projet de jeu, ont des philosophies de travail, et justement, c'est au préparateur physique de s'en imprégner, et non pas à la préparation athlétique d'imposer justement les idées par rapport à ce système de jeu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que effectivement, on est préparateur physique, mais il y a de plus en plus de choses qui viennent se greffer, avec notamment les nouvelles appellations comme les responsables performance, qui se fait beaucoup à l'étranger, et justement, donc, qui vient inclure beaucoup, beaucoup de casquettes au préparateur physique. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, il faut avoir des notions de nutrition, parce que ça devient quelque chose de très important, des notions sur la récupération. Donc récupération, ça inclut tout ce qui est lié vraiment à l'aspect dans le cadre de l'entraînement et des matchs, mais aussi sur l'aspect, on va dire, personnel, avec justement les conseils qu'on peut donner sur la récupération des joueurs sur le plan de l'entraînement invisible. Il est intéressant de noter que la récupération, elle est également un aspect invisible de l'entraînement. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il y a aussi maintenant la partie mentale qui vient se greffer avec l'apparition des préparateurs mentaux. Donc il faut qu'il y ait une certaine interaction entre le préparateur physique et le préparateur mental. Il y a la partie réathlétisation qui est de plus en plus présente, où justement maintenant il faut accompagner les joueurs blessés sur un état physique lambda, les ramener vraiment vers un état optimal pour justement reprendre la compétition. Et il y a toute la partie qui est vraiment en ce moment faire de bataille de tous les préparateurs physiques, c'est la partie prophylaxie. Donc prophylaxie qui est liée à justement tout ce qui est la prévention de blessures au grand sens large du terme. De plus en plus dans les staffs professionnels, vous allez être confronté à la mise en place du cahier des charges. Qu'est-ce qu'un cahier des charges ? En fait, c'est toute la partie logistique liée au déplacement des équipes et à la nutrition à l'extérieur. Donc, c'est vraiment créer un roadbook où vous allez mettre vraiment tous les besoins dont vous avez quand vous allez en déplacement, quand vous allez à l'hôtel, quand vous allez dans les restaurants, par exemple. Faites-vous accompagner d'un nutritionniste ou une nutritionniste, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est dans ce cahier des charges que vous allez faire les commandes par rapport à vos repas, par exemple. Donc, pour repas, petit déjeuner, déjeuner, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'est quelque chose qui va vous être demandé de plus en plus dans les staffs. Donc, faites-vous accompagner des spécialistes, que ce soit la partie médicale, que ce soit la partie nutrition. Et bien sûr, l'intendance pour tout ce qui est lié à, justement, la partie intendance classique avec les déplacements, l'organisation, à quelle heure on arrive, etc. Donc, c'est important d'avoir ce cahier des charges, justement, pour anticiper tous les imprévus et vraiment arriver sur place avec quelque chose de carré. Et justement, mettre l'athlète dans le meilleure disposition, parce que c'est un moment important, la compétition, et justement, il faut vraiment que tout soit, ça roule, que les horaires soient bien définis, etc., avec le staff technique. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là, on va venir vraiment dans le cœur de notre métier, c'est la gestion du match. Comment se déroule un avant-match, un après-match, et vous expliquer un peu le rôle du préparateur physique au sein du match. L'idée, c'est de vous donner un timing de ce qui se passe pendant un match à domicile. Il faut savoir que le timing est assez large pour le préparateur physique, puisqu'on a une arrivée au stade en général à H-5, donc 5 heures avant le coup d'envoi, parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place. La vidéo se fait dans la foulée, donc avec le staff technique. Donc là, c'est en général à H-4, donc après, ça dépend des staffs. La plupart du temps, on a une présentation de l'adversaire ou une causerie spéciale qui est faite en général au début de l'arrivée des joueurs au stade ou alors à l'hôtel H-330, la collation, pour que une fois que la fin de collation soit terminée, qu'on ait cette fameuse digestion qui puisse s'effectuer pour que sur le plan nutritionnel, justement, le joueur soit dans de meilleures dispositions et soit optimisé au maximum. Pour ce qui est de l'échauffement, particularité, donc on est à peu près à 45 minutes du coup d'envoi, où là, justement, on va venir mettre en place partie d'échauffement sur le plan athlétique et sur le plan technico-tactique. Et en général, coup d'envoi sur le coup de 20 heures. Donc après, ça dépend. Il faut faire attention sur certains matchs. Donc si, par exemple, le match est décalé ou il y a un événement périphérique, ou bien sûr, ça viendra modifier tout ce qui est fait en amont. Donc à savoir que le timing, en général, c'est quelque chose qui doit être respecté, qui doit être notifié aux joueurs, qui doit être notifié au staff technique, que tout le monde ait l'information et que toujours, pareil, dans l'idée du cahier des charges, que ce soit linéaire et que tous les imprévus soient cadrés. Si on rentre un peu plus dans le détail, si on vient vraiment s'intéresser au timing, cette fois-ci à l'extérieur, donc c'est un peu bouleversé par rapport à un match à domicile, parce que justement il y a la dominante extérieure avec la partie hôtel, on va dire. Donc en général, un petit déjeuner qui est prêt à 8h15, donc un déjeuner collectif, tout simplement pour éviter que les joueurs restent trop au lit, on essaie de faire un repas commun sur les coups de 8h15. Et pour venir le coupler, un petit réveil musculaire vers 10h30. Donc réveil musculaire, qu'est-ce que j'entends par réveil musculaire ? Ça peut être une activité non coûteuse sur le plan athlétique, avec des petits jeux pour mettre un peu de bonne humeur et un peu de cohésion de groupe. Donc ça doit être une séance qui doit être assez courte et assez dynamique, et en emmenant un petit peu de compétition pour que justement il y ait une certaine émulsion avec les joueurs. Vers 11h45, on place une vidéo donc qui est animée par le coach, l'entraîneur adjoint, le staff technique. Et pour venir après basculer sur un déjeuner à 12h15. Donc déjeuner, pareil, le contenu du déjeuner à voir dans le cahier des charges, donc en fonction des hôtels, que les choses soient bien cadrées et que sur le plan alimentaire on soit vraiment sur quelque chose de cohérent. Donc après, ensuite, les joueurs partent à la sieste, donc libre à eux de se reposer ou non. Par contre, on fixe une collation à 16h15, justement comme pour les matchs à domicile, avoir un apport énergétique suffisant pour le match qui va se dérouler derrière. En général, à 18h, le coach et le staff technique placent une causerie, donc là où ils viennent donner les dernières consignes techniques, où ils viennent impacter sur le plan émotionnel. Vers 18h, 18h10, 18h15, en fonction des lieux de stade, vous partez directement au match, pour un coup d'envoi toujours sur les coups de 20h. Alors, on est rentré dans le détail du timing, d'une constitution de roadmap pendant les matchs, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment de rentrer dans dans le vif du sujet sur les tâches spécifiques aux préparateurs physiques lors du match. Avant les matchs, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a tout ce qui est la partie supplémentation, donc là où vous venez aller préparer vos boissons de récupération, boissons d'effort, vous allez mettre en place vos bains, si bien sûr on est à domicile, hein. Tout ce qui est mise en place de l'échauffement, mettre les coupelles, et puis justement préparer, si vous utilisez un système de monitoring tel que le GPS ou les cardio, bah justement préparer vos gilets. Et l'essentiel, c'est plus tôt vous êtes au stade, plus tôt vous pouvez anticiper. Et s'il y a un problème, au moins vous avez le temps de réagir. Pendant le match, c'est important, il y a plusieurs parties. Donc il y a une partie où il faut être vigilant sur l'hydratation des joueurs. Donc toujours être au bord du terrain, accompagné de plusieurs bouteilles, et essayer de voir si vraiment les joueurs ont besoin de s'hydrater. Mais n'hésitez pas justement à les appeler pendant des coupures pour venir les hydrater au maximum. Parce qu'on sait que c'est une dominante très importante de la performance des joueurs. Il y a une observation aussi, une certaine forme d'observation, donc de regarder un peu le comportement des joueurs, voir si les garçons s'étirent, si il y a des comportements que vous ne comprenez pas chez les joueurs, ou justement c'est peut-être signe de fatigue, de blessure, donc d'être très attentif à ça. Ce qui est intéressant de mettre en place, c'est jouer sur des pré-échauffements, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de remplaçants sur le banc, donc l'idée c'est de mettre en place une activité physique, mais pour tout le monde. À savoir qu'on a des particularités qu'on expliquera tout à l'heure dans la vidéo par rapport au règlement, qu'on peut pas envoyer tout le monde à l'échauffement. Donc ce qui est intéressant, c'est de les envoyer par petits groupes. Par exemple, à partir de la 25e minute, commencer à faire des groupes rotatifs pour justement créer une activité et justement pas qu'ils restent assis. Parce que vous savez que le fait de les laisser assis pendant 90 minutes, si le garçon ne rentre pas, ça va être problématique. Il y a bien sûr un échauffement à faire pendant la mi-temps, c'est-à-dire que pendant le débriefing du coach et du staff, il est intéressant de sortir nos remplaçants et justement d'aller venir travailler avec le ballon, profiter de l'espace du terrain et puis justement les remettre tout de suite en action. Et bien sûr, il y a une partie importante, c'est la partie échange avec le staff où justement, comme on expliquait tout à l'heure, le préparateur physique est un entraîneur à part entière, donc son avis est important pour le staff technique. Ensuite, on arrive à la mi-temps. Donc là, pareil, on va retrouver à peu près les mêmes thèmes. Donc l'hydratation des joueurs, quelque chose de super important. Donc même s'ils n'ont pas soif, il faut absolument leur préparer des boissons, les remettre à leur place et les obliger à boire. C'est quelque chose de très très important. C'est pas parce qu'on n'a pas soif qu'on n'est pas déshydraté. L'alimentation aussi très importante à la mi-temps, vous pouvez amener des gels, des choses comme ça. Le point médical à faire avec le staff médical, donc voir s'il y a des petits pépins, etc. et en informer le staff. Regardez si vous avez la chance d'avoir un système de monitoring pour voir un peu les données athlétiques à la mi-temps, donc ça peut être un plus. Et puis bien sûr, voir avec le coach si lui a déjà une stratégie par rapport aux remplaçants qui vont arriver derrière, savoir s'il veut faire rentrer tel et tel joueur. Comme ça, nous, ça nous permettra d'anticiper sur la deuxième mi-temps l'échauffement des joueurs. Dernière étape à la fin du match, pareil, donc on va toujours veiller à l'hydratation des joueurs, même principe que tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai pas soif que je ne bois pas. Pareil sur l'alimentation, très important, vous le savez que c'est la partie la plus importante, notamment pour anticiper sur la récupération. On reviendra dessus aussi, c'est le protocole de récupération. Donc si vous avez la chance d'avoir des bains froids, de cryothérapie, des choses comme ça, donc c'est intéressant de pouvoir mettre en action tout de suite à la fin du match. Il y a les protocoles aussi de complément, c'est-à-dire que les joueurs qui n'ont pas forcément joué ou peu, c'est intéressant de pouvoir bénéficier du terrain et de faire une séance de compensation pour justement gagner du temps sur la séance du lendemain. Et puis bien sûr, faire un point médical avec le staff pour voir exactement ce qu'il en est. Si demain, sur le retour, sur la séance du match, est-ce qu'il y a des joueurs à aménager, des choses comme ça. On est rentré dans le détail du timing. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail du match. Donc, quelles sont les tâches un peu plus spécifiques? Donc, on l'avait vu. Donc, l'échauffement des remplaçants, c'est quelque chose d'important. Toujours accompagner les joueurs parce que effectivement, un joueur qui est remplaçant, c'est des fois psychologiquement dur d'aller s'échauffer parce que il y a un peu la déception d'être remplaçant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de les accompagner. Voilà, leur faire un peu de mental avec eux, leur expliquer qu'il faut rien lâcher, etc. Donc, il y a vraiment une dominante un peu mentale sur cette partie-là. Je disais l'observation des joueurs très importante parce qu'il y a des comportements, on a l'habitude de travailler avec les joueurs, donc on sait si par exemple le joueur s'étire un ischio-jambier ou des choses comme ça et que ça nous paraît étrange, ça nous permet justement d'aller voir si vraiment il n'y a pas un problème. Hydratation, la nutrition très importante, donc pareil, hein, veiller à ce qu'il y ait toujours des bouteilles au bord du terrain, que dès qu'il y a quelqu'un qui appelle ou un soigneur rentre sur le terrain, qu'il soit accompagné de bouteilles. Et la partie monitoring, c'est pas donné à tous les clubs, mais c'est important de souligner cette partie. Donc si vraiment vous avez la chance de pouvoir avoir des outils tels que les cardio, les GPS, donc c'est important aussi de pendant le match de pouvoir avoir un retour en temps réel pour voir, parce que vous connaissez vos joueurs à l'entraînement et ça vous permet de situer le joueur pendant le match. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans le sport de niveau, ça peut être aussi au niveau amateur, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées, qui viennent impacter en fait sur votre comportement, sur le comportement des joueurs et sur les tâches des préparateurs physiques. Un truc tout simple, l'arrosage du terrain, c'est une chose à prendre en compte. Parce que le terrain va être un peu plus gras, va être un peu plus dur. Donc tout ça, c'est des informations qu'il faut aller chercher en amont pour justement prévenir les joueurs au niveau des crampons, au niveau de la préparation psychologique du match, parce que peut-être qu'on va jouer sur un terrain plus dur, etc. Donc c'est important, ça paraît anodin, mais c'est quelque chose d'important. Pour rebondir là-dessus, il y a l'état de la pelouse. Donc voir pareil, est-ce que c'est une pelouse qui va tendance à avoir accéléré le ballon, ça va être une pelouse où il y aura beaucoup de trous, des choses comme ça, donc c'est important. Quelque chose aussi à voir en amont, c'est la zone d'échauffement. On a de plus en plus de terrains qui sont protégés par la ligue, Il y a beaucoup d'investissements des clubs qui sont faits dans ce cadre-là. Donc, il y a des zones d'échauffement respectées. Donc, en fonction des zones, vous n'avez peut-être pas le même espace que d'habitude. Donc, il faut vous adapter. En parlant de zone, il y a la zone des remplaçants. C'est pareil. Au niveau des échauffements, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Donc, faire attention de bien se renseigner avant pour éviter justement tout problème. La récupération d'après-match. Donc, ça, c'est important de le notifier avant en demandant justement de pouvoir utiliser le terrain après le match et puis justement voir de quelle façon vous allez pouvoir la faire. Et bien sûr, il y a une particularité qui est propre à la Ligue de football professionnel. Donc, c'est que maintenant, nous avons un briefing d'avant-match qui dure quelques minutes, où nous rencontrons l'homologue du club adverse. On nous donne des consignes par rapport aux remplaçants. Toutes ces problématiques, en général, que je vous ai énoncées juste avant, vont être posées au niveau du briefing. Donc ça vous permettra justement de pouvoir anticiper tout ça. La séance de J+1, on fait un parallèle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la récupération. Donc c'est intéressant de pouvoir essayer de faire le maximum de protocoles à l'issue du match, parce que vous savez bien sûr que c'est tout de suite après qu'on est le plus efficace. La séance de J+1 a un effet moindre que la séance qui peut être faite à l'issue du match. Donc là, par exemple, sur une séance de J+1, ce qui est intéressant, c'est de déterminer plusieurs groupes de joueurs. Donc par exemple, les joueurs qui ont joué moins 60 minutes donc auront un protocole de récupération spécifique. Les joueurs qui ont joué moins de 60 minutes auront un protocole de récupération plus un protocole de travail complémentaire. Et puis ceux, bien sûr, qui ont joué moins de 45 minutes, il y aura un travail complémentaire à faire, justement pour essayer de compenser cet effet de match, pour que dès la reprise des entraînements, en général le lundi, après le jour de récupération, que tout le monde soit à peu près nivelé de la même façon. On parlait tout à l'heure des particularités qu'il pouvait avoir dans la partie sport de haut niveau. Donc là, sur la partie de la Ligue de football professionnel, on a quelques particularités. On en parlait tout à l'heure. C'est que, par exemple, les gardiens ont une zone d'échauffement spécifique. Pourquoi je vous parle des gardiens ? Parce que justement, la partie de leur échauffement va venir décalée par rapport au but. Donc justement, ça va avoir une incidence sur nous, notre surface de travail. Donc bien identifier où se situe la zone de travail du gardien. Ensuite, il y a l'échauffement des remplaçants. Donc ça, c'est une particularité aussi. Il y a une zone bien définie qui est en général derrière l'assistant, qui est très petite, et vous n'avez le droit qu'à 3 joueurs plus le préparateur physique. Donc à vous de faire un roulement pour que justement tout le monde soit concerné par cet échauffement. Ensuite, bon, il y a la partie accréditation. Donc ça, c'est un truc assez classique où vous êtes obligé d'avoir en permanence votre accréditation autour du cou. Sinon, c'est renvoi au vestiaire et tout ce que ça implique derrière. Et bien sûr, il y a le protocole du match. Alors ça, c'est une problématique parce que il faut savoir que vous sortez 45 minutes avant le coup d'envoi sur le match. Vous faites votre échauffement et il y a quasiment 15 minutes de battement où il va avoir tous les protocoles d'entrée, etc. Donc, votre effet d'échauffement, est réduit quasiment à néant parce qu'il y a justement ces protocoles à l'issue de votre échauffement. On parlait de tout ce qui était protocole LFP. Donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir modifier ce protocole. Donc en général, c'est un timing qui vous est énoncé par les délégués qui est très strict, très timé. Mais il y a des événements périphériques qui peuvent venir modifier vos horaires d'échauffement. Donc par exemple, il peut y avoir des minutes de silence, il peut y avoir des animations d'avant-match, il peut y avoir des appels de joueurs, il peut y avoir des rentrées sur le terrain un peu loin justement du vestiaire. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que ça va venir influencer votre échauffement et forcément ça va venir influencer la performance en match.